Le temps est brumeux cette nuit, les températures seront fraîches de 2 à 5 degrés avec de petites gelées locales. Pour demain matin, eh bien, vous retrouverez ces gelées avec des brumes et brouillards. Le soleil sera au rendez-vous dans l'après-midi. Il fait toujours très très doux demain grâce au vent d'est, sud-est qui souffle faible à modéré. Jugez plutôt des maximales, elles oscilleront entre 15 et 17 degrés. Puis ne manquez pas Place Publique, ce sera juste après le journal de 18h avec vos questions au standard au 05 59 59 17 17. Il est tout juste 18h, c'est le journal avec Anne-Marie Chancerelle. Bonsoir Anne-Marie.
Bonsoir. Indignation, consternation, dénonciation. Les réactions se multiplient avec l'annonce de la fin de la trêve de l'ETA. Aujourd'hui, Eri Batasuna en appelle au calme et à la responsabilité. 13 militants de l'ETA jugés à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. Une pagaille noire, selon les propres termes du président du tribunal. 10,8% de chômage dans les Pyrénées-Atlantiques. François Bayrou veut prendre les grands moyens et annonce l'embauche de 12 jeunes chargés de resserrer les liens entre employeurs et demandeurs d'emploi. Les réactions sont nombreuses après la menace de l'ETA de rompre sa trêve à partir de vendredi prochain. Côté Pays Basque français, celle des élus comme Michel Alliomarie, le député maire de Saint-Jean-de-Luz, estime que cette trêve était davantage une tactique qu'une réelle volonté. Le président du Conseil général, François Bayrou, estime qu'il s'agit d'un événement extrêmement important et qui va avoir des conséquences absolument terribles. Alain Lamassoure parle de négation de la démocratie. Le président du district BAB se déclare comme François Bayrou, solidaire des démocrates espagnols. La socialiste Nicole Perry se déclare profondément consternée. Côté nationaliste basque, Julen de Madariaga, l'un des fondateurs de l'ETA, estime que Paris et Madrid ont trop joué avec le feu, notamment en jetant en prison les interlocuteurs choisis par l'ETA pour négocier le processus de paix. Et puis ce matin, à Saint-Sébastien, Eri Batasuna, considéré comme le bras politique de l'ETA, tenait une conférence de presse avec en particulier les responsables de la coalition Abertzalde, Arnaldo Otegi et Fernando Barrena, Vicente Brignon.
La déclaration faite par Arnaldo Otegi a duré à peine un quart d'heure en basque et en espagnol. Eri Batasuna a tout d'abord lancé un appel au calme et à la responsabilité politique, puis son porte-parole s'est attaché à souligner tout le côté positif qu'a eu la trêve. Lizarra-Garazi ou bien l'Assemblée des villes du Pays Basque, il n'est pas question pour Achebe de revenir sur ses acquis. Après le positif, le négatif, pour Arnaldo Otegi, la trêve a été sabotée.
Eri Batasuna affiche clairement son total mépris politique envers l'attitude qu'ont eu certains partis politiques et certains médias. Ça a été du sabotage permanent, ça a été de la provocation permanente. En fait, ils ont voulu livrer une bataille contre la raison et le bon sens. À partir de là, ce n'est plus la peine d'aller chercher ailleurs les responsabilités. Mais nous voulons dire clairement à la société basque, nous lui disons qu'elle a assez de force et d'énergie sociale, économique et politique pour amener le Pays basque jusqu'à la paix et la démocratie. C'est là qu'est notre responsabilité politique. Le PSOE, le Partido Popular, l'UDF ou le PS savent qu'ils ont perdu la bataille. Ils savent qu'en fait, ce n'est plus qu'une affaire de temps.
Voilà, et puis la coalition indépendantiste a annoncé d'autre part un rassemblement pour samedi après-midi prochain à Bilbao.
Et compte tenu de cet événement que constitue l'annonce de l'ETA de rompre la grève, Radio France Pays Basque bouleverse ses programmes. Notre émission Place Publique de ce lundi sera consacrée à ce sujet dans quelques minutes. Florence Thiom recevra pendant une heure François Maïtia, responsable Pays Basque du Parti Socialiste, Pampidi Rassar, porte-parole d'Abertzalen Batasuna, Max-François Viris, son secrétaire Pays Basque du RPR, une émission dirigée par Florence Thiom avec Gorka Landaburu, notre correspondant à Saint-Sébastien. Vous pouvez vous poser vos questions en direct dès maintenant en appelant au 05 59 59 17 17. La fin de la trêve de l'ETA qui survient alors que 26 indépendantistes basques devaient être jugés aujourd'hui à Paris devant le tribunal correctionnel. Finalement, 13 d'entre eux seulement seront jugés. Les autres le seront la semaine prochaine. Parmi ceux qui devaient être jugés aujourd'hui, 5 le seront par défaut car ils se trouvent dans la clandestinité. Parmi les prévenus, Daniel Dergui et Gavino Echevarria, arrêtés en juillet 96 en région parisienne. Sur place à la 31e chambre correctionnelle de Paris, notre envoyé spécial Sarah Lemoine, la séance a été plutôt animée.
Le procès a rapidement tourné à l'affrontement. Quand l'audience s'ouvre, trois des prévenus dénoncent l'absence d'un des leurs, retenu après avoir refusé de se soumettre à la fouille corporelle. Yulen Achora et Gorola, le principal prévenu de l'affaire, crie alors sa colère. Vive le Pays Basque libre, vive le Théa militaire. Le procureur Irene Stoller est traité de terroriste et de fasciste. Dans la salle, les familles et les amis, venus en bus du Pays Basque, espagnol ou français, applaudissent et lèvent le poing. Interruption d'audience. À la reprise, les prévenus, tous revêtus d'un t-shirt de l'ETA, un serpent roulé autour d'une hache, réclame un interprète en langue basque. Selon leur avocate, Maître Molina, la présence d'un interprète franco-espagnol révèle un fort mépris pour des personnes qui risquent 10 ans de prison. Elle dénonce même une parodie de justice. Face au refus du président, les prévenus décident alors de quitter la salle. Le procès continuera sans eux. À l'extérieur, c'est aussi l'affrontement. Famille et amis des prévenus improvisent une manifestation devant le palais de justice. Les tracts volent. La police les embarque tous, direction le commissariat du 1er arrondissement pour vérification d'identité.
Alors que tous les indices économiques sont au beau fixe, le chômage décroît lentement, beaucoup trop lentement, en tout cas pour les élus du département. Le taux de chômage dans les Pyrénées-Atlantiques est aujourd'hui de 10,8%. Le Conseil général lance une opération d'insertion pour l'emploi, Jean-Pierre Dossé.
Les Pyrénées-Atlantiques comptent plus de 10 000 RMistes, un chiffre insupportable d'autant qu'il augmente chaque année. Pourtant, le chômage n'est pas une fatalité. Il y a des RMistes capables d'accéder à l'emploi instantanément et il y a des chefs d'entreprise qui recherchent du personnel. L'Assemblée départementale a donc décidé de prendre le taureau par les cornes, son président François Bayrou.
Il y a des milliers de gens dans le département des Pyrénées-Atlantiques qui restent complètement en dehors de l'emploi et qui n'ont aucune chance d'en retrouver un. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Et en même temps, si vous regardez, il y a des emplois qui ne trouvent personne pour les remplir. Il y a là un chaînon qui manque et c'est vraiment l'explication de tous les ou de beaucoup d'échecs qu'on rencontre, en particulier en matière de social. Pour moi, on n'est pas quitte avec les gens quand on leur donne un chèque. Une allocation.
12 jeunes animateurs locaux vont donc prendre leur bâton de pèlerin pour tenter de faire le lien entre les demandeurs d'emploi et les chefs d'entreprise. Maïlis Darichon est chargée de collecter le travail de ses petits camarades basques. Comme tous ses nouveaux collègues, elle est jeune et très déterminée.
J'ai une expérience, moi, de 10 ans en grande distribution spécialisée. J'ai été souvent sollicitée en tant que chef d'entreprise pour des actions d'insertion. Et aujourd'hui, j'ai choisi de changer de bord, d'essayer de fédérer autour de moi des chefs d'entreprise qui trouveront, je pense, dans l'insertion, une autre dimension à leur fonction de chef d'entreprise et une autre dimension aussi dans leur implication dans la vie locale de tous les jours.
Chaque animateur a pour objectif d'organiser 200 rapprochements par an et pour que ce travail ne soit pas une simple mesure supplémentaire, ils rendront compte de leurs investigations aux élus du Conseil général tous les 6 mois.
La saison s'achève pour l'Hôtel du Palais comme pour beaucoup d'entreprises de tourisme. Le Palace de Biarritz affiche une augmentation de 15% de son chiffre d'affaires pour son dernier bilan. Et puis dimanche soir, lors de la 8e nuit des Biarros, Michel Froisse a été institué Biarro de l'année pour son festival du film industriel et pour son dernier ouvrage, La Révélation de Casablanca, paru chez Atlantica. Gérard Stack est arrivé au Paraguay. Le globe-trotteur béarnais qui parcourt le monde à moto pour le compte de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge arrive de Patagonie via l'Uruguay. Le Paraguay est le 78e pays visité par Gérard Stack qui se rendra ensuite au Brésil. Le plan Vigipirate a été mis à nouveau en place en Corse. Une compagnie de CRS a été envoyée en renfort. À Rennes, une bombe a été retrouvée devant les locaux de la NPE. L'engin de 2,5 kg de dynamite n'a pas fonctionné. Semaine décisive pour la paix en Irlande du Nord avec la formation d'un premier gouvernement multiconfessionnel. Les pompiers à nouveau dans la rue un peu partout en France. De légers incidents se sont produits à Bordeaux, Lyon et Brest. Il est 18h08, Franck Olivard.
Merci Anne-Marie. Voyons tout de suite les chantiers pour demain.
Info autoroute avec ASF.
Nantes, bien sûr, sur l'A63, trois portions seront concernées par des travaux. Bayonne Sud, Bayonne Nord, Hondres, Bayonne Sud et Saint-Jean-de-Luz Sud, Saint-Jean-de-Luz Nord. Et puis concernant l'A64, entre Cap-Verne et Tournai, 4,5 km de travaux et circulation basculée sur 5 km sur la voie rapide entre Salis de Béarn et Orthès dans le sens Bayonne-Toulouse. 18h09 sur Radio France Pays Basque, place publique, l'émission de la rédaction de Radio France Pays Basque consacrée ce soir à la rupture de la trêve de l'ETA. Invité François Maïtia, conseiller régional, secrétaire fédéral Parti Socialiste au Pays Basque, Max Brisson, responsable du RPR Côte Basque, Pampidi Rassar, porte-parole du mouvement Abertzaleen Batasuna, et en direct avec nous depuis Saint-Sébastien, notre correspondant Gorka Landaburu, une émission proposée et animée par Florence Turme.
Bonsoir. Le 16 septembre 1998, l'ETA annonçait une trêve illimitée et unilatérale. Hier, l'organisation indépendantiste basque annonce la rupture de cette trêve de la manière suivante. À partir du 3 décembre, il revient à l'ETA de faire savoir aux commandos opérationnels quand commencer à réaliser des actions. Une déclaration publiée par le journal nationaliste Gara. Ce soir, dans Place Publique, vous pourrez poser vos questions à trois représentants de mouvements politiques réunis autour de cette table. Max Brisson, le responsable du RPR Côte Basque, Pays Basque. François Maïtia, secrétaire fédéral du Parti Socialiste au Pays Basque. Pampidi Rassar, porte-parole d'Abertzaleen Batasuna, une formation qui regroupe plusieurs tendances de la gauche nationaliste. Et avec nous depuis Saint-Sébastien, le correspondant de Radio France Pays Basque, Gorka Landaburu. Avant de vous donner la parole aux uns et aux autres, je voudrais simplement faire un petit rappel historique. La naissance d'ETA, Euskadi eta Askatasuna, Pays Basque et Liberté, remonte au 31 juillet 1959, mais la première action armée, le premier attentat mortel, intervient le 7 juin 1968. On chiffre aujourd'hui à près de 800 le nombre de morts attribués à l'ETA. L'organisation qui revendique l'indépendance du Pays Basque a toujours mené ses actions sur le territoire espagnol, mais la France a longtemps servi et sert toujours d'ailleurs de base de repli aux clandestins. Cette trêve aura duré 14 mois, c'est la plus longue jamais vue dans l'histoire de l'ETA. Aujourd'hui, la première question est de savoir, bien sûr, pourquoi elle a été rompue. Question à Gorka Landaburu.
Il est difficile. Bon, il y a le communiqué de l'ETA, évidemment, hier, la déclaration qui dit clairement qu'ils rompent la trêve et qu'ils décident de reprendre les attentats des armes pour diverses raisons. D'abord, il y a la raison de la responsabilité des gouvernements français et du gouvernement de Madrid qui ont tout fait pour bloquer le processus de paix qui était en marche depuis l'annonce de la trêve, comme vous l'avez précisé, le 16 septembre de l'année dernière. Ils accusent également les partis nationalistes modérés, partis nationalistes basques et Eusko Alkartasuna, qui ont eu diverses réunions avec l'ETA avant et après la trêve pour mettre en marche ce qu'on appelle le processus de construction nationale. Ils accusent à ces partis nationalistes de n'avoir pas été au bout de leurs idées et qu'ils ont également freiné ce processus et que dans le contexte actuel, vu qu'il n'y a pas de négociation et que Madrid fait la sourde oreille, c'est la considération essentielle qui permet à l'ETA de décider de reprendre les attentats.
Merci Gorka pour ce premier point de vue et première question peut-être à Max-François Brisson, puisque vous êtes ici le représentant du RPR. Est-ce que le gouvernement français porte selon vous une responsabilité dans cette rupture de la trêve ?
La France est certes concernée par ce qui se passe au Pays Basque espagnol et concernée par ce qui se passe au Pays Basque, mais je crois qu'on ne peut pas mettre comme cela les deux gouvernements sur un pied d'égalité et surtout faire un amalgame entre ce qui se passe au Pays Basque français et ce qui se passe au Pays Basque espagnol. C'est trop facile et puis ça ne correspond pas à la réalité de ce que nous vivons au quotidien. Le Pays Basque français, c'est le Pays Basque français. Ce qui se passe en Pays Basque espagnol est une affaire qui concerne d'abord l'État espagnol et les citoyens qui vivent dans ce pays.
Alors l'État espagnol est-il responsable de la rupture de cette trêve?
Vous savez, dans ce genre d'affaires, les responsabilités sont partagées. Le petit jeu consiste à se repasser la responsabilité, à se refiler le bébé. L'affaire est beaucoup trop grave pour qu'on joue à ce jeu-là. Le gouvernement espagnol a fait ce qu'il devait faire. Moi, je pourrais aussi constater que l'ETA, après tout, n'a jamais baissé la garde, a certainement continué, sans que j'ai des informations particulières, à se réarmer et à reconstituer sa logistique. On peut se demander aussi, dans l'autre sens, si cette trêve n'était pas un peu tactique.
Surprise, indignation, consternation, ce sont les mots qui reviennent aujourd'hui.
Inquiétude aussi.
Inquiétude également, mais nous en parlerons peut-être dans une seconde partie de ce débat. Pour autant, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y avait des signes précurseurs? La question précurseur à l'annonce de cette rupture de la trêve, est-ce qu'on ne pouvait pas s'y attendre dans une certaine mesure? C'est un peu la position, je crois, qu'Abertzaleen Batasuna défend aujourd'hui, Pampidi Rassar.
Oui, enfin, tout d'abord, je voudrais dire que dans l'esprit de beaucoup de gens, les gens ont confondu un petit peu un processus de paix, une trêve, et la solution au conflit. Un processus de paix, ce n'est pas la fin d'un conflit. En 14 mois de trêve effective, aucun signe n'est venu de la part du gouvernement français et espagnol. Il y a 2 mois déjà, l'organisation ETA avait, je dirais, frappé un peu du poing sur la table en demandant à toutes les parties prenantes dans le conflit et à la société basque de s'investir pour qu'il y ait réellement une solution. Je ne suis pas persuadé, moi, que les États français, que les gouvernements français et espagnols souhaitaient sortir du conflit. Je pense qu'ils souhaitaient revenir à la situation antérieure.
Alors peut-être que justement cette réaction de Pampidirassar, on vous prend un petit peu à chaud, François Maïtia, parce que vous arrivez à l'instant même dans nos studios, mais en tout cas cette position de Pampidirassar appelle une réflexion de votre part. Est-ce que le gouvernement français sortir du conflit, le gouvernement français et le gouvernement espagnol sortaient voir une issue rapide, une issue réelle au conflit?
J'ai le sentiment, mais c'est un sentiment, que le gouvernement français aspire à ce que la paix règne sur le Pays basque. Mais s'agissant de personnes qui utilisent la lutte armée pour arriver à des fins politiques, quand une trêve est annoncée, il y a d'abord le temps de la confiance qui doit s'établir. Et ce temps, il est forcément long. Du jour au lendemain, il n'est pas facile de faire admettre à la société basque que les états rats sont devenus des agneaux. Et il faut que le temps fasse son œuvre. Et aujourd'hui, ceux qui, d'entrée de jeu, avaient dit que la trêve de l'ETA, c'était une tromperie, qu'on ne peut pas fonctionner avec une trêve en suspens, que pour engager une démarche constructive, bien, il convient de donner des signes complémentaires. Eh bien, aujourd'hui, ceux qui disaient hier que cette trêve, il fallait un peu s'en méfier, viendront dire qu'ils avaient raison.
Alors,
et pour ceux qui me concernent, je pense qu'il y avait une occasion qui a été créée, qui méritait que cela dure encore davantage pour que la confiance commence à s'installer. Je pense que dans les rues de Saint-Sébastien, on vivait plus à l'aise ces derniers mois, de façon un peu plus sereine, et que cette confiance, elle était en train de s'installer. Mais que cette confiance a été unilatéralement rompue par l'ETA, et donc je tiens à dire avec beaucoup de fermeté que cette nouvelle qui a été donc annoncée est une vraiment mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle pour le Pays basque, mais cela fait des années que le terrorisme était mauvais pour le Pays basque.
Pampidirassar.
Sur la question de confiance, il faut que la confiance soit mutuelle. 14 mois de trêve, c'est quand même un argument de confiance. En face, on a quand même, il y a quand même eu 26 incarcérations, 7 expulsions, 2 extraditions. Ce n'est pas des éléments qui prêtent à se mettre en confiance.
Que fallait-il annoncer, selon vous? Déjà, d'emblée, un rapprochement des prisonniers?
D'emblée, il aurait fallu donner un signe fort. Le signe fort aurait été le rapprochement des prisonniers, aurait pu être le regroupement des prisonniers. Il aurait fallu un signe qui fasse comprendre à la société basque en général que les gouvernements étaient prêts à sortir du conflit.
Alors, j'appelle Gorka Lanamoro à Saint-Sébastien. Gorka, est-ce que c'est le point de vue qui ressort aujourd'hui des analyses, des différentes analyses politiques que l'on retrouve dans la presse, que l'on retrouve dans les prises de position des différents partis politiques? Est-ce que le rapprochement des prisonniers, un signe fort, comme vient de le dire Pampidirassar à l'instant même, est-ce que ce rapprochement des prisonniers aurait suffi pour faire avancer la trêve, en tout cas pour la prolonger et aller plus loin ensuite, ou est-ce qu'il fallait tout de suite mettre sur la table la question de l'indépendance du Pays basque, qui est quand même la revendication fondamentale de l'ETA?
Bon, évidemment, je crois que de toute façon, il faut écarter les problèmes. C'est-à-dire, dans un sens clair, le rapprochement des prisonniers politiques, à mon avis, et je crois que la majorité des partis politiques basques ici le disent et le répètent depuis longtemps, d'ailleurs même avant la trêve, c'est que le collectif des prisonniers de l'ETA aurait dû être rapprochés déjà depuis longtemps, parce que c'est une décision qu'avait prise le Parlement basque et même le Parlement de Madrid. Et là, je crois que M. Aznar a eu tort. Il a joué un peu avec les prisonniers politiques comme un bras de fer, en disant à l'ETA, je rapprocherai les prisonniers politiques. Il l'a fait. Il a fait timidement l'année dernière, au mois de décembre, à peine une vingtaine. Cette fois-ci, du côté du mois de juin, c'était une quarantaine de prisonniers, mais c'était véritablement insuffisant. Il est vrai que si, dès le départ, ou quelques semaines après la trêve, le président du gouvernement espagnol avait fait un geste important, ce geste aurait été interprété d'une façon totalement positive par la plupart des formations politiques. Bon, voilà un point. Je crois que même si la trêve est interrompue, il faut continuer à exiger que, par droit, les prisonniers soient rapprochés de leur famille au Pays Basque. Ça n'a rien à voir avec la trêve ou avec l'interruption de la trêve. Je crois que les choses sont claires. Du moins, c'est ce que précise ici la grande majorité des partis politiques. D'autre part, ici, effectivement, vous avez parlé tout à l'heure du problème des occasions perdues. C'est triste, c'est vrai, 14 mois de trêve, on s'était habitué à vivre en paix, on s'était habitué à vivre sans attentat. Beaucoup de gens menacés, je parle en particulier des conseillers municipaux du Parti Populaire ou même du Parti Socialiste, ont vécu une période beaucoup plus tranquille. Ces derniers mois, on respirait plus tranquillement à San Sébastien, Bilbao ou à Gasteiz, Vitoria. Et dans le sens des responsabilités, effectivement, que l'on parle, que le gouvernement espagnol, nous l'avons critiqué, il est vrai, on le critique durement ici au Pays Basque, mais j'estime, et je crois que c'est un peu également la position de la plupart des partis politiques ici, qui sont réunis cet après-midi et qui analysent cette situation, disent que la seule responsabilité de la rupture de la trêve est l'incombe à l'ETA, parce que l'ETA va revenir à la violence. Il est évident que la société basque, dans sa grande majorité, a dit 1000 fois non à la violence, 1000 fois non au terrorisme et au chantage. Et je crois que l'ETA prend une grave responsabilité et elle risque de s'isoler définitivement de la société basque si elle reprend les armes.
Max Brisson, vous souhaitez réagir?
Je veux réagir à ce que dit Gorka Ntaburu, parce que moi, en effet, depuis ce matin, enfin, depuis hier, je pense aussi à mes amis du PP. Le RPR avait noué des liens importants avec Carlos Hidorgaiz et le Partido Popular. Rien ne justifie dans un état de droit, rien ne justifie en Europe aujourd'hui, dans une démocratie, que lorsque l'on est un simple conseiller municipal, on doit se promener avec des gardes du corps. Or, c'est quand même bien cela que vivent aujourd'hui les élus socialistes ou les élus du PP de Euskadi. Cela n'est pas justifiable à quelques kilomètres de chez nous et au cœur d'une Europe qui est profondément démocratique. Toutes les thèses peuvent s'exprimer, tout peut être dit, tout peut être écrit. Donc rien ne justifie la violence, et c'est cela d'abord qu'il faut condamner clairement.
Carlos Iturgaiz, président du Parti Populaire, qui disait ce matin, l'ETA détruit une fois de plus les espérances de paix des démocrates, elle confirme qu'il ne s'agissait pas d'un processus de paix, mais d'un processus d'indépendance. Vous êtes d'accord avec cette prise de position?
Mais cela, c'est le débat du Pays Basque espagnol. Moi, je suis européen, et je suis français, vivant au Pays Basque français. Je dis simplement, par rapport à un état de droit, que la reprise de la lutte armée, que la reprise de la violence politique, que la ne peut pas se justifier. Tous ceux qui militent pour autre chose, pour l'autonomie ou l'indépendance du Pays Basque espagnol, ont tous les moyens d'expression. En aucun cas, nous ne pouvons accepter, nous qui sommes démocrates, que la violence armée vienne réinvestir ainsi le cœur de l'Europe.
Pompi dira ça.
Juste une petite question, Monsieur Brisson. Qu'est-ce qui peut justifier que les prisonniers basques soient maintenus loin du Pays Basque dans des conditions qui sont loin d'être légales, c'est-à-dire qu'on n'applique pas aux prisonniers basques les mêmes conditions qu'à des prisonniers de droit commun?
Je réagirai pour ce qui concerne la France, et je ne peux, moi, comme élu, responsable
du RPR, tout à fait.
Je ne réagirai que pour ce qui concerne la France, comme élu d'un parti politique français, pour dire qu'en effet, ben, c'est le temps dont parlait François Maïtias, c'est l'incompréhension parfois de ce qui se passe ici. Et je ne pense pas que la décision de l'ETA aide à améliorer la compréhension à Paris de ce qui se passe chez nous. C'est vrai que nous avons parfois du mal à faire comprendre ce qui se passe ici. Et pour ce qui me concerne, je peux continuer de plaider et de militer pour que les prisonniers puissent être plus près de leur famille, c'est-à-dire donc dans des lieux de détention qui permettent aux familles de les visiter. Moi, je suis prêt à m'associer à toutes les démarches, même une fois la trêve rompue.
La question peut être posée également à François Maïtia.
Oui, bien sûr. On peut comprendre, et ça c'est la loi française, que les prévenus soient maintenus dans le ressort géographique du juge d'instruction qui instruit les affaires les concernant. Et là, on ne peut pas rapprocher ces prévenus du lieu de leur domicile. Mais pour ce qui concerne les personnes qui ont été jugées et qui ont été condamnées à subir des peines d'emprisonnement, eh bien, je milite moi aussi pour que ces personnes-là puissent vivre le plus près possible de leur famille, parce que la meilleure garantie pour une réinsertion ultérieure, eh bien, de maintenir des liens forts avec la famille et l'entourage. Donc ici, les deux prisons les plus proches sont Gradignan et Lannemezan, et un certain nombre de prisonniers mériteraient probablement d'être incarcérés à ces endroits-là.
Je rappelle que vous pouvez poser vos questions dans cette émission en direct au 05 59 17 17. Et nous avons une question qui nous vient d'Antione de Saint-Jean-de-Luz. Antione, nous vous écoutons.
Oui, je crois que isoler ce problème de trêve ou non-trêve du problème général qui se pose, qui est un problème réel qui se pose au Pays Basque avec une intensité différente à Igualde qu'à Iparralde, il n'y a pas d'autre. Mais c'est un problème, c'est un, il n'y a pas plusieurs problèmes, il y a un problème, c'est celui du Pays Basque. Il se pose de façon différente. Et des deux côtés, c'est vrai, j'entends dire à M. Brisson qu'on peut tout dire, on peut parler de tout. Oui, mais on peut parler de tout au Café du Commerce. Par exemple, on ne peut pas parler du département avec les responsables politiques de Paris. À ce sujet, l'absence totale de Nicole Perry et j'ai honte. J'ai honte, vraiment, je connais Nicole Perry. Jamais j'aurais cru une chose pareille d'elle. Il faut que ce soit Madame Dominique Bouvoinet qui dise au ministre de l'Intérieur, qui parle tant de sa République, qu'il faudrait qu'il respecte les décisions de justice. C'est ça l'état de droit.
Antione, vous voulez lier la question du département, la question de cette revendication d'un département Pays Basque.
Je termine avec le département. Oui, je d'accord. Dis que c'est un ensemble. Maintenant, je parle du Sud. Au Sud, les gens souhaitent effectivement l'indépendance. Bien, quelle indépendance? Peut-être pas celle du 19e siècle, qui est une indépendance romantique, mais une indépendance qui permette de respecter, de défendre l'identité et la langue. Étant donné que la monnaie, on n'est pas indépendant pour la monnaie, personne ne l'est. Pour l'armée, personne ne l'est. Pour les décisions industrielles, les multinationales le prennent. Pour la distribution, les multinationales. Donc, de préserver la partie identitaire, c'est un ensemble. C'est vraiment dommage que la trêve soit interrompue. Je crois que il y aura une deuxième trêve. Mais croyez-vous, et je pose là la question aux deux élus du Parti Socialiste et du
RPR. Ben,
j'allais dire du Parti Populaire, c'est un lapsus freudien, mais enfin c'est la même chose, dire RPR ou Parti Populaire. Et je pose la question aussi au représentant d'Abdelsalem Batasuna, croyez-vous que ce soit beaucoup demandé que de dire le peuple basque décidera librement de son destin? C'est équivalent à ce qui a été la déclaration de Downing Street, qui est celle qui a mené à la pacification pour l'instant de l'Irlande.
Max-François Brisson, une première réponse.
C'est vraiment trop demandé. Voilà, merci d'avoir été passé.
Merci à vous.
Moi, je suis opposé, j'étais opposé clairement, et dans le débat démocratique qui a été important sur toutes les ondes, ici y compris, et dans toute la presse, dans tous les forums possibles, j'étais moi opposé, j'ai même organisé une réunion dans mon propre parti, à la création d'un département Pays Basque. Parmi les raisons pour lesquelles je m'oppose, eh bien, je crois que notre auditeur vient de me conforter. C'est vrai que pour certains qui réclament un département, ce n'est qu'une première étape d'un cheminement, d'un chemin vers lequel je ne veux pas aller. Alors comme je n'ai pas envie d'aller ce chemin, j'ai décidé, en ce qui me concerne, François Maïti a fait un choix différent, de ne pas franchir la première étape. Mais pour le reste, sur la question du département, si on n'a pas pu en parler, alors là vraiment je tombe des nues, parce que je trouve qu'on en a beaucoup, beaucoup parlé.
François Maïti.
Eh bien, l'auditeur qui nous interrogeait parlait d'indépendance. Il parlait d'indépendance du Pays Basque. Eh bien, lorsqu'on rapproche ces deux termes, nous sommes bien en train de parler de la situation en Espagne. Parce que indépendance du Pays Basque, cela ne concerne pas le territoire de la République française. Alors, s'agissant de l'affaire d'un pays voisin et ami eh bien, il lui appartient, dans ce conflit avec les interlocuteurs du Pays Basque, de bien mesurer l'état de la demande et les marches de progrès qui peuvent être faites dans ce sens ou pas. Mais s'agissant de la France, il ne saurait être question que cette portion du territoire de la République française soit mêlée à cette question, de la même façon que la Navarre souhaite rester en dehors de tout autre processus. Nous sommes bien ici avec des Pays Basques, avec trois Pays Basques. Il y en a un en France. Du côté espagnol, il y a la Navarre et Euskadi. Et tout ceci crée une très grande de complexité. Euskadi a une très large autonomie qui a été très largement approuvée lors du référendum sur l'autonomie. Et pour l'instant, ce qui a été exprimé par les électeurs d'Euskadi, c'est une adhésion au statut d'autonomie. Alors, certains peuvent dire que la majorité du Pays Basque est pour l'indépendance. Je ne sais pas où ils vont chercher ça.
Alors, est-ce que, Pampilirassar, vous suivez François Maïtia sur ce point entièrement ? Est-ce que la question du département Pays Basque, la question de la création d'un département Pays Basque est une question strictement française ?
La question, alors je répondrai, vous comprendrez bien que moi je ne vois qu'un Pays Basque. Pour moi, que je rejoins un petit peu l'auditeur Antoine qui disait que le problème basque, le conflit basque est en fait un seul conflit. Il n'y a pas un conflit sur le territoire espagnol et un conflit sur le territoire français. Les fondements même de ce conflit ont été clairement exposés lors des accords de Lissara-Galassi qui ont été signés une semaine avant la trêve.
Alors, on rappelle donc en deux mots ce que sont les accords de Lissara-Galassi, des accords qui sont intervenus quelques jours avant la trêve de l'ETA et qui visaient à aboutir vers une solution démocratique.
Tout à fait. C'est-à-dire, c'était les accords de Lissara-Galassi avaient été la conséquence d'un processus à l'irlandaise où plusieurs partis politiques, plusieurs syndicats se sont regroupés autour d'une table et ont cherché à comprendre le pourquoi du conflit basque et les réponses ou la méthode qui pouvait être adoptée pour sortir de ce conflit.